ces gens qui font la différence, avec Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission en direct à ces gens qui font la différence. Ce sont ces gens qui font la différence dans la société. Le fait que la société est meilleure grâce à leur travail, grâce à leur grande humanité. Notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est Monsieur Richard Lavigne, il est directeur général de la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec, la COFHAN, et il est consultant auprès de 4 principaux regroupements québécois d'associations de personnes ayant des incapacités. Alors, il est vraiment très, très occupé, et ça depuis 2006-2008, consultant en développement organisationnel à l'Union francophone des aveugles, au Bon Pilote et au regroupement des associations des personnes aphasiques du Québec, et ça depuis 1999. Il est également directeur général du regroupement des aveugles de Montréal métropolitain. Il a fait ce parcours-là de 1991 à 2003, directeur régional de l'Est du Québec de l'Institut national canadien pour les aveugles. Ça, c'était 1988-1989. Il est membre du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et ça, ça a duré jusqu'à 2010. On le reçoit en studio tout de suite après cette pause. Alors, Richard Lavigne, j'aurais pu comme ça continuer pendant des heures et des heures parce que vous avez un parcours tout à fait exceptionnel. Quelqu'un qui se bat et continue à se battre pour toutes les différences, pour qu'il n'y ait pas d'exclusion, mais plutôt de l'inclusion. Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Quand je vous dis comme ça que vous avez un parcours exceptionnel, est-ce que, étant plus jeune, vous pensiez faire ce que vous faites en ce moment?
Oh non, pas du tout. Moi, quand j'étais jeune, à l'âge de 4-5 ans, je voulais être avocat.
Bon?
Oui, je voulais être avocat parce que dans mon village où je suis né, il y avait une dame qui avait un beau-frère aveugle et qui était avocat, Maître Lennes. Alors pour moi, là, en partant, je voulais être comme lui.
Alors, justement, on va dire, parce que peut-être il y a des gens qui ne le savent pas, vous êtes non-voyant, c'est important de le dire parce que on va ouvrir une petite page sur votre enfance, sur votre vie. C'est arrivé quand, à votre naissance, après?
Je suis né aveugle, donc c'est arrivé le même jour que je suis arrivé sur la Terre. Ouais. Et je suis né dans un petit village, mon père était agriculteur, il était un éleveur de vaches Holstein, des vaches... qui faisait de l'exposition, là, des vaches pur sang. Alors, je suis né dans cette famille et à l'âge de 5 ans, ben, comme c'était la mode à l'époque, et c'était pas nécessairement mauvais, mais on m'a envoyé à l'école des aveugles à l'Institut Nazareth à Montréal. Mm-hmm. Et c'est ça, c'est là, avant de commencer l'école, qu'on me disait qu'il y avait un avocat aveugle. Et quand je suis arrivé à l'école chez les sœurs, j'avais 5 ans et demi. Et j'ai trouvé ça très difficile, hein? Papa et maman, c'était loin, là, à 5 ans et demi. Et je me suis rendu compte autour de moi qu'il y en avait d'autres qui étaient aveugles, mm-hmm. notamment mes profs, hein, les professeurs, les maîtresses qu'on appelait là, quand on était petit. Elles étaient à peu près toutes aveugles. Alors aussi. J'ai été trempé dans un monde d'aveugles où on pouvait espérer que les aveugles puissent être actifs.
OK. Ouais. Et donc, vous dites, ben, il y avait un avocat, ça c'est plus tard, votre rêve d'eux, mais tout petit, même adolescent, vous aspirez toujours être avocat tout le temps? C'était votre rêve à atteindre?
Je ne disais pas que c'était un rêve. C'était comme ça depuis l'âge de 5 ans, puis je me destinais vers des études en droit. Hein, je veux dire, c'était dans mon parcours. C'était... J'aurais bien voulu être agriculteur, mais c'était pas possible. La ferme de mes parents était trop petite pour pouvoir embaucher des ressources puis faire ses frais. Alors, j'ai dû oublier à ces jeunes la ferme, mais j'adorais les animaux, j'adorais le grand air, la liberté aussi que c'était à l'époque, hein, parce qu'on pourrait en parler de l'agriculture aujourd'hui, c'est plus ce que c'était.
C'est difficile, là, extrêmement difficile.
Ouais. Oui. Mais bon an, mal an, ben, c'est ça, j'ai fait mon primaire, mon secondaire, pour ça je suis allé à la polyvalente chez nous au cégep, puis je me suis ramassé à l'université, toujours dans un esprit de faire du droit. Mm-hmm. Mais il y a eu un bug à un moment donné. J'ai laissé tomber les études.
C'était quoi le bug?
Ben, écoutez, à l'époque, pour toutes sortes de raisons, ben, on avait moins d'équipement. Hein, à l'époque, les ordinateurs n'existaient pas encore, en tout cas pour nous. On n'avait pas accès à des facilités d'aujourd'hui pour aller à l'école. Et je dois avouer peut-être une certaine paresse. Je dois l'avouer. Peut-être que ça ne me tentait pas de faire des efforts. Alors, je passais du droit, le droit au droit au pluriel.
Ouais.
J'ai transféré dans un groupe de défense des droits, le bénévolement, au regroupement des aveugles de Montréal. Alors, c'est ça. J'ai lâché le droit pour les droits.
D'accord. Et on va aller dans la transition parce que on voit dans votre parcours que vous êtes énormément battu pour une intégration dans les classes dites normales. Ça a été, mais pour vous, le fait au début d'avoir été dans une école où les gens étaient comme vous, est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il a fallu faire une cassure rapidement? Est-ce que vous étiez à l'aise? Est-ce que c'était confortable ou vous sentiez un petit peu à part des autres?
Non, j'étais chanceux. La transition de l'école dite spécialisée là, vers l'école régulière, la polyvalente, et après ça, cégep, l'université, j'étais très chanceux. Moi, ça s'est fait très, très bien. Faut dire que dans mon adolescence, le gouvernement avait décidé qu'on allait chez nous toutes les fins de semaine. Et je me suis fait des amis dans mon village. Et je suis passé par toute la gamme, hein, à l'adolescence. J'ai connu le rejet. Hein? À 14, 15, 16 ans, j'ai connu le rejet. Quand on va dans un party, puis les filles ne veulent pas danser avec toi, j'ai connu ça. À un moment donné, je ne voulais plus sortir. Mon père m'a obligé à sortir quand même. Il m'a dit, écoute, tu n'as pas le choix, habitue-toi tout de suite. Alors, j'ai géré le rejet. Je l'ai pris comme étant éventuellement peut-être constructeur. Et lorsque je suis arrivé à l'école des voyants, comme on appelle régulière, j'avais déjà plein d'amis.
Donc, ça, c'était à quel âge?
À 15 ans.
Okay.
Le secondaire 5. Mm-hmm. Et je suis arrivé là, j'avais plein d'amis. Puis l'école spécialisée où j'étais allé, l'Institut Louis Braille, m'avait très bien préparé au plan académique. Tout le monde voulait être dans mon équipe d'intervaux d'équipe lorsque je suis arrivé chez les voyants parce que j'avais eu la chance d'avoir une formation exceptionnelle. Et je le dis, là, bien honnêtement, c'est une formation exceptionnelle qu'on a eue, les personnes aveugles, à cette époque-là. On était drôlement bien équipés au plan académique, en tout cas. Puis au plan social, bien, ça dépendait des individus. Alors, pour moi, ça a été un véhicule d'intégration.
Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas eu le moment de peur de changer, c'est-à-dire de passer de l'école des non-voyants à voyants, ou finalement, dans l'école des non-voyants, tout le monde est comme nous, il y a une espèce de confort, tout le monde est, entre guillemets, pareil, donc il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il y a eu une espèce de trac, de stress?
Pas du tout, parce que moi, au contraire, j'avais hâte de sacrer mon camp de là-bas. J'en avais assez des frères, là. J'en avais assez. Là. C'est bien beau qu'on avait des bons profs, là. Mais c'est cet esprit de clocher qu'il y avait là-bas. Là-bas, quand tu n'étais pas conforme à la règle, tu étais mis de côté. Je parle par la direction, par les frères. Alors, je n'étais pas celui qui était très docile. Donc, assez tôt, j'ai été visé là, comme étant un faiseau de trouble. Puis le problème qu'il y avait, c'est que j'avais quand même des bonnes notes à l'école. Fait qu'ils ne pouvaient pas dire, au lieu de chialer, étudie, là, parce que ça, ils ne l'avaient pas. Fait que quand je suis parti de là, c'était une libération. Et mon secondaire 5, c'était la plus belle année de ma vie. J'ai comme un peu viré fou, entre guillemets. J'avais tellement de crédits d'accumuler que j'avais plein de cours libres. Alors, j'en ai profité pour reprendre un petit peu le temps perdu dans la vie ordinaire de tous les jours.
En même temps, la révolte, elle était là, elle commençait à grandir, c'est-à-dire que vous aviez, c'est toujours les meilleurs révoltés, ceux qui ont des meilleures notes parce qu'on les écoute plus, mais il y avait une révolte qui était à l'intérieur de vous.
Ah, bien sûr. Et ça continue, même aujourd'hui.
Ouais.
Je n'accepte pas la condition dans laquelle je vis. C'est pour ça que je me bats pour l'améliorer. Et on est 800 000 au Québec qui vivent à peu près à peu de choses, près les mêmes choses. Hein, la discrimination, le maternage, etc. Parce qu'il y a beaucoup de termes qu'on pourrait utiliser. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, le droit, c'est bien beau. Parce qu'on nous avait dit, lorsque je suis arrivé à l'université, ici, vous n'êtes pas venu pour la justice, vous êtes ici pour le droit. Et moi, j'étais un gars de justice. Alors, j'ai compris assez vite, puis ça ne me tentait pas d'étudier tant que ça. Alors, puis quand j'ai eu l'opportunité de faire de la militance dans les groupes de défense des droits, ça m'a beaucoup plus attiré.
On va revenir avec votre période d'université. On va faire une pause. Vous savez que ces gens qui font la différence, nos invités, on demande, ma recherchiste demande toujours votre chanson et pourquoi. Alors, vous avez choisi Renaud, Société tu m'auras pas. On pense qu'on comprend, mais...
On écoute les paroles.
Vraiment...
on écoute les paroles, puis on va comprendre.
Elle est faite pour vous, là.
oui, ça, c'est une parmi celles. Et j'ai choisi quelque chose, comme je disais, avant qu'on entende nom à votre collaboratrice, j'ai essayé de choisir quelque chose qui était passable à la radio, là, parce que je pense que ça dénote un peu mon orientation. Faut se battre. Il faut surtout pas se laisser avoir par la majorité. La majorité... silencieuse et silencieuse, justement.
Et la majorité moutonne, elle est pas drôle. Alors, on écoute ça tout de suite. Renaud.
Il y a eu Antoine avant moi, il y a eu Dylan avant lui, après moi, qui viendra après moi, c'est pas fini. On les a récupérés, oui, mais moi, on m'aura pas. Je tirerai le premier et je viserai au bon endroit. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai marché sur bien des routes, j'ai connu bien des patelins. Partout on vit dans le doute, partout on attend la fin. J'ai vu occuper ma ville par des cons en uniforme qui étaient pas vraiment virils mais qui se prenaient pour des hommes. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. J'ai vu pousser des barricades, j'ai vu pleurer mes copains, j'ai entendu les grenades tonner au petit matin. J'ai vu ce que tu faisais du peuple qui vit pour toi. J'ai connu l'absurdité de ta morale et de tes lois. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois. J'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas. Demain, prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil. J'ai chanté 10 fois, 100 fois, j'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits ce que je pensais de toi. Société, société, tu m'auras pas.
Nous sommes en direct, mesdames, messieurs, avec Richard Lavigne, directeur général de la COFAN. Et vous avez dit quelque chose, monsieur Lavigne, tout à l'heure, qui nous a tous touchés. Vous avez dit « je n'accepte pas ma condition ».
Non, ce que je n'accepte pas, c'est ma condition personnelle, je l'accepte. Je vis très bien avec mon handicap. Je pense que je peux prétendre avoir une belle vie de famille, ma femme, ses enfants, tout ça, mes enfants maintenant. Ce que j'accepte pas, c'est le regard, c'est le comportement qu'on a envers les gens différents. Moi, je peux vous parler des limitations fonctionnelles, mais on peut parler des communautés culturelles, on peut parler de toutes ces personnes qui ne font pas partie de cette soi-disant majorité qui décide. Pourquoi je n'accepte pas? Parce que ça fonctionne pas. Il n'y en a pas pour nous. Et peut-être que les gens vont trouver sévère. Moi, ça fait 35 ans que je milite. Hein, puis on est encore... quand on parle à quelqu'un, le décideur, là, on nous parle de nous permettre des choses, d'être tolérant.
Oui, c'est comme si on vous faisait une faveur.
C'est ça.
Alors, autrement dit, quand on vous donne quelque chose, c'est comme on faisait une... Alors que c'est normal, c'est naturel, mais c'est comme faire une faveur, finalement.
Ben, c'est comme ça qu'on nous le dit. Et pourtant, c'est pas... les textes de loi sont clairs.
Ouais.
Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On quémande encore.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça que je n'accepte pas et que je n'accepterai jamais. Parce que on est soumis. Hein, soumis. Société, tu m'auras pas. C'est clair.
Ça le dit complètement.
Ouais.
Alors, donc, c'est plus, finalement, ce qui se passe, le rapport avec la société, le regard. Puis, en plus, bon, vous avez parlé tout à l'heure, mais quand j'étais adolescent, on me mettait de côté... donc, il y a aussi ça là, qui fait mal, finalement.
Ben, je me suis rendu compte assez jeune que si on ne disait pas ce que l'autorité voulait, on avait des problèmes. Hein, on avait des problèmes. Et moi, j'ai eu la chance, pour le moment, mais demain, ça peut changer. J'ai eu la chance d'être capable de m'en sortir quand même, de continuer à dire ce que j'avais à dire. En vieillissant, on dit un peu mieux, un peu plus gentiment, mais le fond n'en demeure pas moins. Je suis un éternel militant et non, je ne peux pas dire que je suis content de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer au Québec et dans le monde en général. On dit des belles choses, mais quand ça vient le temps d'agir, là, c'est toujours compliqué. Monsieur Lavigne, c'est pas comme ça que ça marche. Mais non, ça marche pas, votre affaire. Mais il faut toujours... mais l'autorité veut toujours utiliser son pouvoir pour dominer. Et on est encore dominé. Et on parle des personnes qui ont des handicaps, mais beaucoup d'autres. Et je crois que c'est si on se met tout ensemble, les personnes handicapées, les femmes, juste les personnes handicapées puis les femmes, là, si on se mettait vraiment ensemble, on pourrait y régler au beau monsieur décideur, là, que garde, fais attention. T'sais.
Oui, parce que la tendance est vraiment de droite. La tendance est vraiment à se regarder son nombril, à ne pas penser à l'autre. La société s'en va là-dedans, malheureusement. Là.
Oui, la droite, la gauche. On a un gouvernement français de la gauche. Depuis qu'il est élu, il n'arrête pas de scraper les décrets pour la participation sociale des personnes handicapées en France. Alors, la gauche puis la droite, là, je ne sais plus. Là.
Ouais. À l'université, on retourne en arrière dans cette émission, on fait le chemin. Donc, vous rentrez à l'université, puis vous avez dit tout à l'heure, moi, je voulais avoir la justice. Ça vous intéressait plus, faire la justice, finalement. Comment ça se passe, votre séjour à l'université?
Bien, quand même, parce que j'ai concentré mes quelques cours sur ceux que j'aimais, le droit social. J'aimais beaucoup le droit constitutionnel, parce que moi, je considère qu'une bonne constitution, c'est un véhicule de justice, hein, la charte des droits et tout ça. Je détestais le droit civil et le droit criminel. Mais c'est le droit...
Parce que vous n'aviez pas d'intérêt ou
ben, ça ne m'intéressait pas. Okay. Ça ne m'intéressait pas carrément. Mm-hmm. Parce que dans mon projet, moi, c'était de changer la société.
Ouais.
Hein? Puis je ne dis pas que ça ne change pas la société, le droit civil, le droit criminel, mais on ne peut pas tout aimer. Là. Alors, j'ai pas fini mon droit de toute façon. J'ai fait 2 ans. Après ça, j'en avais assez. Puis j'ai eu l'opportunité de faire d'autres choses. Mais j'ai eu quand même beaucoup de plaisir. J'ai rencontré de très bonnes personnes. C'est juste que c'était straight, les cours. C'est l'Université de Montréal, là. C'était bien straight.
Oui, mais en droit, il n'y a rien de plus straight que le droit.
Alors, c'est très
droit.
Je vais
dire la virgule qui compte plus que hein, le mot, c'est en droit, ce que vous attendiez. Ouais. Ça, c'est sûr.
Mais j'ai un prof qui m'a interpellé, puis qui est encore actif, Jacques Frémont, qui est maintenant président de la Commission des droits de la personne. Du Québec, hein, depuis un an et demi à peu près. Lui, il m'a enseigné le droit social. Alors, c'est quelqu'un que je retiens et okay. que j'ai revu récemment dans un autre mode. Et puis, j'espère que je le retiens pas pour rien.
Alors, au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe après 2 ans et pour que vous décidez de dire merci, bye-bye?
Ben, j'en ai marre. Dans ma vie personnelle, il y a eu quelques petits bouleversements. Puis j'ai connu un groupe de personnes aveugles en défense collective des droits. Et comme ça, je dis non, je lâche l'école, j'y retournerai un jour. Je suis retourné d'ailleurs plus tard pour faire une maîtrise en réadaptation, là, mais je voulais faire du terrain. Je voulais avoir du vrai monde. Mm-hmm. J'ai même, quand j'ai laissé l'école, aller travailler dans une usine. Je voulais connaître le monde du travail en usine. J'ai travaillé quelques semaines dans une usine, mais je me suis rendu compte que je n'étais peut-être pas fait pour ça. Ça faisait 3 semaines que j'étais là, puis je parlais déjà de monter un syndicat dans l'usine. Là, puis je pense que ça n'a pas marché avec les patrons. Là.
Vous êtes né comme ça.
Je suis parti de là, puis je suis milité en droit. Puis ça, j'ai travaillé. Là. J'ai même travaillé à Visez-Voix, que ça s'appelait la Magnétothèque à l'époque.
Ah, ouais,
j'ai travaillé dans toutes sortes d'organisations, mais toujours dans une optique de droit.
Et quand vous êtes à l'université, est-ce qu'il y a autant de différences? Est-ce que vous, vous êtes bien servi? On vous donne ce qu'il faut pour apprendre ou vous devez vous battre pour aller à l'école? Ou c'est encore des batailles qui n'en finissent plus?
Mais quand j'étais là, il n'y avait rien, fait que c'était pas compliqué.
OK, donc
il y avait
des batailles.
Il faut s'organiser avec ses troubles.
OK.
Je passais plus de temps à gérer des bénévoles lecteurs qu'à étudier. J'avais 8 magnétophones. Écoutez, en droit, il y en a de la lecture. Là. J'avais 8 magnétophones que je m'étais fait payer par des clubs Lyon, par des bourses. Puis j'avais des bénévoles. J'étais un gestionnaire de bénévoles plus qu'étudiant. Ça faisait partie vraiment de ce que je détestais. J'avais moins de temps
donc
pour étudier.
Donc, c'était lourd, là, finalement.
Oui.
C'était une organisation. Ouais. Juste d'apprendre. Déjà que c'est difficile d'apprendre les lois quand on est en droit.
Il n'y avait rien en braille. Il y en a qui ont réussi. Là. Il y en a, je dis pas ça, là, que c'est impossible. Il y en a qui ont passé avant moi et qui ont réussi. Je les admire. Mais à un moment donné, moi, j'avais comme fait un choix. Là, puis j'avais décidé de faire ça autrement. Puis aujourd'hui, là, je dis pas que c'est le bonheur total, là, mais ils ont des preneurs de notes, ils ont des bourses pour des besoins particuliers, etc. Tu peux aller à l'école à temps plein pour deux cours par session. À l'époque, c'était six cours. Là. En droit, c'était six cours au bye-bye, là. C'était pas évident.
Et donc, ça, c'était beaucoup plus lourd. Vous arriviez avec vos cassettes, puis vous étiez obligé d'engager des bénévoles pour vous aider. Ça, ça n'a pas été facile, ça.
Non, ça n'a pas été facile. Ça aurait été faisable. Et j'avoue, bien honnêtement, que ça ne me tentait pas. À un moment donné, j'étais tanné. J'ai arrêté. Bien candidement, là, ceux qui écoutent, là, faites-vous-en pas. Là, c'est comme ça. À un moment donné, on fait des choix. Et on les assume. Puis j'essaie de les assumer encore aujourd'hui. Je ne le regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir laissé parce que j'ai eu un parcours parfois assez compliqué, mais un parcours quand même que j'aime bien.
L'étincelle, quand on dit la petite étincelle qui fait qu'on va trouver notre voie, qu'on va trouver notre voie professionnelle, est-ce qu'elle s'est faite à l'université à ce moment-là? Vous avez dit, ça y est, moi je vais aider, moi je vais faire en sorte qu'il y ait plus de justice. C'était à ce moment-là, si on peut le...
L'étincelle s'est faite dans une rencontre d'un organisme. Et je suis arrivé en pleine polémique. La chicane taponnée, comme on dirait dans l'organisme. J'ai arrivé là-dedans, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Genre, là, on va brasser la cage un peu. Puis non, bon, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens se chicanaient. C'était pas pour les aveugles, ils chicanaient pour défendre des organismes. Je nommerai pas d'organisme, rien, ça donne rien, là. Puis moi, je suis arrivé là, je prends le micro, qu'est-ce que vous faites là, là? Les aveugles sont où, là? Vous voulez défendre ci, vous voulez défendre ça, mais les aveugles sont où? Puis c'est là que je me dis, non, moi, ça m'intéresse. Puis il faut dire que moi, comme je dis souvent, la polémique, j'ai pas de problème avec ça. Faut que ça bouge.
Faut que ça bouge. Ouais. On fait une pause musicale.
Ma tête soliloque autour la semelle de mes bottes. Quand elle se frotte au pavé des ruelles, on m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout.
Fred Pellerin, tenir debout, c'est ce que vous avez fait, Richard Lavigne.
C'est ce que j'essaie de continuer à faire, oui. C'est pas toujours facile, mais on essaie.
Parce que vous auriez pu abandonner, vous auriez pu dire « bon, ben c'est assez, j'en ai marre de me battre ». Mais vous avez décidé de suivre le chemin, de se battre, non seulement pour vous, mais surtout pour les autres.
Je sais pas si j'aurais pu abandonner. On dirait que... Il y a quelqu'un qui m'a demandé « comment tu fais? » Je ne sais pas. C'est comme ça. Abandonner, oui, on abandonne un certain nombre de choses, mais il y a des choses qu'on n'abandonne jamais, c'est ses convictions profondes. Sinon, ce n'est pas des convictions.
Ouais. Vous êtes né comme ça, alors?
Ouais.
J'ai l'impression que c'était... Parce qu'on a vu dans votre enfance que vous, ça y allait par là.
Ouais,
la révolte, elle était grande.
Ouais,
et elle l'est toujours autant.
Je faisais des procès-verbaux de réunion à 13 ans. À Louis Braille, j'étais membre de la coopérative. J'ai appris à faire des procès-verbaux.
C'est quelque chose.
J'ai appris la procédure d'assemblée à 14 ans.
C'est quelque chose. Vous étiez fait pour ça.
C'est...
Pas avocat, mais quand
bien,
même.
Ouais.
Mais ça aide quand même de comprendre les lois.
Oui, c'est sûr.
Surtout qu'il faut les appliquer et en faire des nouvelles qui donnent la justice à plus de gens, finalement.
Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont payés pour, mais qui, je pense, qu'ils ne comprennent pas leurs lois. C'est
non,
ça, l'affaire.
Ils ne les étudient pas assez. Alors, on fait une pause... publicitaire et on revient tout de suite après.
D'accord.
Qui font la différence. Voici Sophie Stanquet.
Mon invité, nous sommes en direct, mesdames, messieurs, Richard Lavigne, et on parlait de parcours, de toujours de la bataille. Finalement, vous avez toujours été un battant. Et vous avez quand même voulu mettre, dès que vous avez mis les pieds dans le militantisme, il y avait des cartes à changer, là. Ça n'allait pas, là, à Montréal. D'ailleurs, les études, vous en avez parlé, c'était vraiment pénible et difficile juste de suivre un cours. Mais vous commencez dans les années 70, 78, et qu'est-ce que vous faites concrètement?
Quand j'étais étudiant, on avait eu la chance d'avoir ce qu'on appelait des projets d'embauche d'étudiants l'été. Là. Et on avait, avec des copains, proposé un projet de tout faire la carte de Montréal en braille, ainsi que des stations de métro, en braille et en relief. On s'est dit, ils accepteront jamais. Ben non, ils ont accepté.
Bon.
Alors, on a fait ça pendant un projet d'été puis un projet d'hiver après, là, entre deux sessions d'école. Alors, les cartes, et c'est là que j'ai commencé vraiment à comment organiser des conférences de presse, comment faire des communiqués de presse, comment aussi travailler avec cette fameuse concertation, parce que nous, on était dans ma maison là, avec deux, trois personnes, puis là, on concertait les organismes, l'Institut Nazareth-Loubraille, l'INCA, le RAC et tout ça. Mm-hmm. Puis disons, on n'était pas dans ces organismes-là encore. Là. En 78, mm-hmm. là, non. Moi, j'étais nowhere.
Fait que là, fallait concerter. Vous étiez en train de vous trouver,
ouais,
là.
Ouais.
Vous trouviez.
Là, ouais. Puis là, ben, je me suis ramassé à animer des réunions de concertation sans savoir même le sens du mot concertation. Puis on a fait nos cartes, puis on les a vendues à STM. Puis à un moment donné, je me suis dit même que ça avait été inscrit dans un rapport à l'ONU, une initiative de Montréal pour les personnes handicapées. Là. On faisait pas ça pour ça, là. On faisait ça pour des jeunes, un peu fous, un peu jeunes.
On aime des fous comme ça, nous, qui font avancer, qui changent les choses dans la société. Ensuite, bon, il y a un parcours, parce que je disais que vous avez un CV assez impressionnant et un parcours impressionnant. Vous êtes administrateur de MIRA, mais ça, c'est beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard, oui.
Nazareth, et vous êtes président du conseil d'administration de l'Institut Nazareth Louis Braille.
Oui, je suis après il y a eu une crise des années 90. Encore une fois, de façon assez particulière, je me suis remonté président du conseil d'administration, on a embauché un nouveau DG, on a pris un virage et on s'était battu à l'époque contre la fusion de l'INLB. C'est un petit sujet encore d'actualité, ça, là. Mais bon, à l'époque, on avait réussi. On avait réussi là, à contrecarrer les projets de ce qui était la régie régionale, la Montérégie à l'époque. On mettait des petits sans-aveugles dans une salle, puis on lui disait « Non, on veut rien savoir de votre projet. » Ça militait. Une journée, en janvier 1995, vers de là, puis il y avait 108 personnes dans une salle le samedi matin pour dire à l'agence et au gouvernement « On n'en veut pas de votre fusion. » Puis on avait gagné. Mmh. On en gagnait de temps en temps.
C'est bien. Président du conseil d'administration du CAMU, pour les personnes handicapées, donc ça vous tient à cœur, là?
Oui, bien, le CAMU, c'est un comité de partenaires syndical, patronal, les organismes de services, les personnes handicapées, les centres de réadaptation, l'office, en tout cas, toute la famille au complet. Et on a travaillé pour essayer de mettre en place une stratégie, ça, c'est des années 90, pour mettre une stratégie pour toute la question de l'emploi des personnes handicapées à l'époque. À l'époque, au CAMU, on avait des dirigeants du conseil du patronat, des syndicats et tout ça. On avait réussi à convaincre la commission des partenaires d'adopter dans sa stratégie globale de l'emploi tout un pan pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, pas des petites affaires à part, là, dans la même politique. Mm-hmm. Malheureusement, ben là, c'est comme bien des documents, tout a été adopté, puis après ça, d'autres sont arrivés, puis ils ont réinventé la roue. Puis ça
c'est quand il y a un changement de pouvoir, malheureusement, ça arrive souvent. Ouais. Président du conseil d'administration du comité d'accompagnement des plaintes de Montréal de 1994 à 1997. Alors ça, c'était quelque chose pour vous.
Oui, bien, la loi permettait la mise en place d'organismes dans toutes les régions pour accompagner les gens qui avaient des plaintes à faire dans le réseau de la santé et services sociaux. Mm-hmm. Alors, on a parti du zéro, on a mis ça en place. Moi, j'aimais bien mettre les choses en place avec des amis. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai quitté en 97, une fois que tout était en place, pour aller ailleurs faire d'autres choses, entre autres le CAMU et tout ça. J'ai beaucoup travaillé à mettre des choses en place.
Oui, à bâtir, toujours intéressant. Hein, j'ai l'impression que vous aimez bien ouvrir, organiser, puis après ça,
On a essayé de mettre un centre de travail adapté sur pied aussi pour les aveugles en téléphonie, on avait tout mis ça en place. Malheureusement, quand on donne notre projet à quelqu'un d'autre, bien, des fois, les gens les font pas, parce que ça n'a pas marché. Mais pour le comité des plaintes, il a survécu. De toute façon, la loi le prévoit. Là.
Et puis la francophonie aussi, président administrateur de l'Union francophone des aveugles.
Oui, ça, c'était
ça, vous êtes resté longtemps.
Oui, assez longtemps.
De 96 à 2001, 2002?
Oui, 2000. J'ai laissé définitivement 2009.
2009? J'avais 2001.
Oui, mais pour ça, j'ai...
Un petit départ, puis un faux départ. Ah, c'est ça.
Ouais, okay. Ça, j'ai connu l'international, les bons et les moins bons côtés du développement international. Quand on va au Burkina Faso, par exemple, je suis allé donner une formation à des représentants de 5 pays francophones, leur montrer comment faire des conférences de presse, monter des projets, faire des budgets. Quand j'ai visité l'école pour aveugles qu'il y avait là à Ouagadougou, là, en 1998, là, d'ailleurs, c'est une année charnière dans ma vie, 1998, j'ai eu tout un choc. Quand on regarde
comment,
ce qu'il y a là-bas...
C'est
terriblement... C'est démuni. Il n'y a rien. Il n'y avait rien pour eux autres. C'était le tiers-monde pour vrai. Là.
Je vous sens très, très, très ému de ce passage.
Oui, j'ai comme un peu paniqué, d'ailleurs. Quand je suis rentré dans la classe, j'ai pris un livre braille qui était on l'appelait du thermophone, un braille embossé sur du plastique. Je promenais mes mains sur les documents Et c'était tellement poussiéreux. Là, j'appelais ça du braille flottant. Il y avait plus de picots de poussière que de braille sur les feuilles. L'école, c'était... la remise à mon père, là, puis l'école, là, ça se ressemblait. Là, la remise où on mettait les pelles et les tracteurs. Là. Puis les gens étaient heureux quand même. C'était beau de voir les gens à quel point ils étaient détachés de ce qu'on est, nous, en Occident. On est super... on est protégé. On dit qu'on n'a pas grand-chose. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Mais ils n'ont pas grand-chose de certaines façons. Là, je parle en 1998. Là, aujourd'hui, je suis plus sûr. Ouais.
Je vous sens tellement bouleversé. J'ai l'impression que ça a été un moment charnière de votre vie, ça.
J'ai décroché. C'est là que j'ai commencé à décrocher de beaucoup de choses. Des choses superficielles, problèmes de... Je me suis séparé. J'ai commencé aussi à changer mes façons de faire. Je suis revenu essayer de revenir sur les bases des choses et non pas de juste aller faire des comités, des réunions, aller voyager, tout ça. J'ai essayé de me rapprocher un peu de...
N'as-tu plus sur le terrain, peut-être?
Oui, un peu plus sur le terrain. Et malheureusement, revoir un certain nombre de choses qui n'avançaient pas, parce que j'avais tellement de réunions, tellement de comités, tellement de ça, que j'étais un petit peu trop loin de ce
la réunionnite, comme on dit, hein? La réunionnite.
Puis je suis revenu, on avait un centre communautaire au RAM à l'époque, puis j'étais prêt à tous les jours. Le matin, je m'organisais pour aller voir les membres, peu importe ce que j'avais à faire le reste de la journée. J'allais toujours voir les personnes, et c'est ces personnes-là qui m'ont aidé. Et je m'ennuie de ça, parce que mon travail aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des organismes.
Organismes. 60. Donc, vous êtes 60 même.
Ça grossit. Je m'ennuie beaucoup des personnes.
Alors, on va parler deux minutes avant d'aller dans un bloc au niveau de l'intégration, liberté et inclusion. Mira, parce que c'est, je veux dire, on ne trouvera pas d'adjectif aussi fort pour dire combien c'est un organisme qui fait des choses extraordinaires avec les chiens. Vous êtes allé dans cet organisme, vous avez été administrateur de cette fondation. Comment ça a été?
Il faut dire que moi, je suis allé me chercher un chien à Mira. Drôle à dire, c'est la suite d'une gageure. J'ai dit à quelqu'un, je vais aller me chercher un chien, je vais te gager que moi aussi, je peux driver ça, un chien guide. Je suis arrivé là comme ça, par défi. Et j'ai eu mon chien Praline pendant près de 10 ans, j'ai beaucoup apprécié. Et entre-temps, Éric Saint-Pierre m'a dit, écoute Richard, viens donc sur mon CA. Alors, je suis allé sur le CA, mais un CA de la Fondation Mira, là, c'est pas un CA d'organisme comme les nôtres. C'est comme un CA d'entreprise. Hein, ça va vite, puis bon... j'ai vécu ça positivement dans le sens où j'ai vu qu'il y avait des gens dédiés à la cause du chien guide, et du chien pour les personnes handicapées. J'ai vu des hommes, des femmes d'affaires, des gens extraordinaires qui sont vraiment dédiés pour venir en aide. Sauf qu'il y avait... C'était pas là que je faisais la défense des droits, là. C'était pas la même chose.
Non.
C'est pas pareil. Là, c'est une fondation.
Oui, puis c'est plus... permettez-moi de dire plus utilitaire, dans le sens que, bon, le chien est extraordinaire, il apporte une compagnie, mais il est surtout utile, c'est
ça. Oui, et la base du travail de la Fondation Mira est dans une optique qui est importante, mais qui est distincte de celle de la défense des droits. Mira a un but, c'est de donner des chiens aux
donner
personnes.
Donner un service, finalement.
Donner un service. Ouais. Et ça, je suis allé pour Éric parce que c'est un gars que je respecte énormément. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup. D'ailleurs, je ne sais pas comment il va. On me dit que sa santé n'est pas terrible. Là. Mais c'est quelqu'un qui a énormément aidé. Et ce gars-là, les chiens, il connaît ça. Je pense qu'il parle en chien, ce gars-là. C'est pas compliqué. Là. Moi, quand j'ai eu des problèmes avec Praline, il m'a dit « passe-moi là ». Il est revenu 10 minutes après, puis je n'ai jamais eu de problème avec. Je ne sais pas ce qu'il a dit.
Mais... Aujourd'hui, je n'ai pas vu Praline, c'est terminé.
Donc ah non, ça,
elle n'a pas été remplacée.
Non, je n'ai pas eu d'autre. Non, c'est un choix.
Ouais. On fait une pause musicale. C'est votre choix toujours, Richard Desjardins. « Le cœur est un oiseau », pourquoi?
Ben parce qu'on va parler de liberté tantôt. Hein. C'est la liberté, pour moi, c'est un... C'est la base de tout. Inclusion, intégration, liberté. Alors, lui parle de liberté.
On l'écoute. Ouais.
Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore. Plus haut, le cœur est un oiseau dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, le cœur est un oiseau.
J'ai justement l'impression qu'en 30 ans de militantisme concret, hein, parce que c'est plus que du militantisme, est-ce que vous portez le chapeau de président, de DG. Ces trois mots font partie de votre vie, justement, liberté, inclusion, intégration. Si je commence, on n'est pas rendu au jeu questionnaire, mais si je vous dis liberté.
Ben, liberté, c'est la capacité de l'individu de choisir. C'est très important qu'on choisisse notre devenir, qu'on choisisse ce qu'on veut et qu'on choisisse ce qu'on veut pas. Au-delà de ce que les autres veulent, parce que nous, comme personnes, il y a tellement de monde qui veulent notre bien, là. C'est effrayant. Il y a plein de monde qui veulent nous aider, qui veulent notre bien, qui essaient de nous empêcher de tomber. Qui nous font des beaux programmes, là, tout ça. Mm. Mais on n'est jamais là, c'est toujours les autres. Pour, c'est le pour. Mais le par, là, il n'est pas là. Et alors, bien. Pour moi, c'est fondamental. On a une charte des droits et libertés, mais après ça, tout le monde s'en mêle, sauf les personnes.
Mm. L'inclusion. C'est 40 ans d'impatience partagée avec les gens. Vous voulez que ça bouge?
Écoutez, dans les années 70, on a adopté au Québec là, la loi sur l'exercice des droits des personnes handicapées. Puis là, on parlait d'intégration. Il faut intégrer les personnes handicapées dans la société. L'intégration, concrètement, une phrase, là, si tu prends quelqu'un de différent et tu l'insères dans une patente qui existe déjà, puis la personne doit s'organiser pour fitter, marcher dans la grosse patente. Mm-hmm, mm-hmm. L'inclusion, et on a cheminé vers là, la COFAN et le milieu de plus en plus, c'est que la différence entre l'intégration, je vous l'expliquais en deux phrases. L'inclusion, c'est de prévoir des environnements de façon à ce qu'ils puissent accueillir tout le monde avec ses différences. Mm-hmm. Parce que moi, je vais parler
mais pas artificiellement.
Non.
Qu'ils soient là.
Qu'ils soient là pour me permettre d'agir avec mes différences. Mm-hmm. Moi, je ne veux pas être comme tout le monde. Je veux être Richard Lavigne. Mm-hmm. Je veux qu'on me voit comme étant moi-même. L'intégration, je me fonds dans la masse. Je disparais. quand on ne voit plus quelque chose, malheureusement, on ne s'en occupe plus. Mm. Alors, l'inclusion,
L'intégration, par contre, vous étiez pour, c'est-à-dire au niveau scolaire, d'aller dans les écoles comme tout le monde. Vous êtes sorti souvent pour ça.
Oui, mais écoutez, oui, mais au départ, on y croyait. Maintenant, on parle d'inclusion scolaire, justement, parce que les classes doivent être aménagées avec les ressources pour que la personne différente puisse évoluer dans le respect de sa différence. Mm-hmm. Parce que nous, au départ, et c'est une réaction, lorsque le Québec s'est réveillé, on a dit « il faut intégrer tout le monde à la société ». Et je crois que c'était une démarche correcte. Et à l'époque, c'était comme ça. Mais maintenant, le cheminement de militantisme fait en sorte qu'on parle plus d'inclusion, de regarder la personne dans l'univers, mais avec ses différences, avec ses aspirations personnelles, avec ce qu'elle peut apporter. Avoir une limitation fonctionnelle, c'est pas juste du trouble, c'est une particularité qui contribue, qui contribue à la diversité, cette fameuse diversité dont on parle tant.
Donc, une intégration... Mais si je dis, avec des mentors, avec des gens qui donnent des outils nécessaires. On l'intègre, mais on s'en occupe.
On s'en occupe, on le soutient et on l'encourage à faire valoir ses différences. Notre société va s'enrichir. Si tout le monde était pareil, ça serait plate en maudit là, dans la société. Alors, il faut qu'on valorise l'expression de la différence. Il faut la reconnaître, mais il faut aussi l'encourager. Il faut l'encourager. Et c'est ça qu'on fait pas. C'est ça qu'on fait pas au Québec. Si t'es pas comme la majorité, t'es pas là.
Ouais. Alors, bâtir une société inclusive, est-ce que vous êtes toujours en train de négocier avec les politiques? Vous dépendez du gouvernement en place? Quel est justement votre rapport avec les politiciens puis le politique? Est-ce que vous avez envie de brasser la cage tout le temps? Est-ce que vous montez sur les barricades quand ça ne fonctionne pas? Quand vous entendez qu'on parle plus d'économie que de l'humain, c'est quoi votre réaction?
Mais moi, parlant d'économie, les personnes qui ont des limitations fonctionnelles nécessitent des investissements de 8,4 milliards, semble-t-il, par année. Ça, 8,4 milliards, là, c'est deux fois et plus le profit que l'Hydro-Québec verse à l'État. Est-ce que les personnes handicapées, on n'est pas devenus des richesses naturelles pour faire fonctionner l'État? Ceci étant dit...
ça, vous devriez la sortir aux gens en place, aux politiciens, ouais, là, dans votre prochaine rencontre.
Des mémoires, des commissions parlementaires, des consultations, là, on en a eu plein. Et les gens sont tous là, oui, vous avez raison, oui, il faudrait pas... vous nous sensibilisez. Mais ça aboutit à rien parce que les systèmes sont trop gros. Et les politiciens n'ont pas... Écoutez, je vais le dire, peut-être pas ce qu'il faut alentour d'eux autres pour les faire cheminer. Parce que les ministres passent, mais les fonctionnaires restent.
Oui. Hein?
Et les fonctionnaires ont leur vision. Et je crois que la vision d'inclusion, de participation sociale, de liberté, c'est pas dans leur carnet. Eux autres, c'est une vision de programme. Si un besoin d'une personne est reconnu, la question qui se pose, c'est dans quel programme on doit le mettre. Puis si ça ne fit pas dans un programme ni dans l'autre, ben là, au lieu d'ajuster les programmes, ben non, ça ne marche pas. Et c'est très compliqué parce qu'on est toujours dans une situation de dépendance. Ils ont le pouvoir sur nous et ils le savent très bien. Et les personnes qui ont limitation fonctionnelle, pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas une communauté très facile à mobiliser. Mmh. On a essayé souvent. Moi, j'ai fait des manifs dans les années 80. Là. C'est pas nouveau, des manifs. Là. Puis ça a toujours été un défi. Demander du transport adapté pour aller manifester contre la société de transport, c'est pas... Il y a quelque chose là, qui est complexe.
Ben oui.
Il y a quelque chose qui marche pas.
Tout à fait, il y a quelque chose.
Et puis manifester pour sortir de la pauvreté. On va nous dire, ouais, mais les personnes handicapées, vous êtes chanceux, vous avez un gros chèque de BS. Les gros chèques de BS, c'est encore trop petit, là, tu sais.
C'est rien, ça.
Alors, on est toujours.
On a même fait des émissions de télévision pour prouver que c'était rien, là. Alors, il a fallu montrer ça au monde parce que le monde ne le croyait pas.
Mais je dois quand même dire qu'on n'a pas le choix. On est dans une société démocratique. Il faut continuer à convaincre les politiciens, les politiciennes, les décideurs. Mais il faut convaincre la société.
Mais est-ce que vous avez une écoute quand même? Parce que quand vous parlez de la politique, puisque vous devez parler à ces gens-là, est-ce que vous avez... Il y a quelque part où on vous écoute?
Ah oui, on nous écoute. On nous écoute. On est bien courant de ça. On est bien solidaires. mais ça a tendance, malheureusement, trop souvent à être oublié. On a des belles politiques sur le soutien à domicile à part entière. On a une belle loi sur l'exercice des droits. On a une belle charte. On a des beaux textes. Ça, c'est, là-dessus, on est bon. Là.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de paroles, mais il n'y a pas beaucoup d'actions.
Mais quand ça arrive dans la vraie vie, c'est que là, il faut être compris. C'est quand l'économie va mal, ah, ben Richard, il faut attendre, ça va mal. Puis quand ça va bien, ben attends ton tour.
C'est ça. Sur la liste d'attente, c'est jamais votre tour. Alors, Lacofane, parlons-en. Vous avez corrigé parce que ça monte. Vous êtes rendu 60 organismes.
Oui, 60 organismes. Ça grossit, Lacofane. Ce sont des organismes ou des regroupements d'organismes qui représentent l'ensemble des types de limitations fonctionnelles et qui se préoccupent et qui interviennent dans les champs de la défense collective des droits sur l'ensemble des dossiers qui concernent les personnes et leurs familles. On existe depuis 1985, incorporé 1985, ça existait avant informellement. Là. Et on travaille, nous, ces temps-ci, sur beaucoup de choses. Hein. Le gouvernement nous donne beaucoup de travail, même s'il ne nous donne pas de financement, avec ce qui se profile à l'horizon, révision de programme, le projet de loi 10 sur la réforme du réseau de la santé, les défis sur la stratégie en emploi, les enjeux sur la pauvreté, le fameux code de construction là, qui est en train de, les règlements sur le code de construction qui est en train d'être adopté sans tenir compte d'engagements qu'on avait pourtant eu avant sur l'accessibilité des logements. Alors, on intervient, nous, on est trois personnes à Lacofane.
On est pour trois. 60 organismes?
Oui. Puis pour 50, pour je ne sais pas combien de dossiers.
C'est quelque chose.
Alors, on est financé par le Secrétariat d'Action communautaire et aux initiatives sociales, le SACE, pour la défense collective des droits. On a, nous, un budget qui n'est même pas aussi gros que certains budgets d'organismes de base, de régionaux. Tant mieux pour eux autres, mais nous autres, ça ne nous en donne pas plus. Là.
Alors, encore là, il y a une discrimination à ce niveau-là.
Ben oui, mais je pense que c'est correct. Pour le gouvernement, ouais. Il ne nous en donne pas beaucoup. Fait que la défense des droits, c'est pas quelque chose qui est très, très financé. Et la COFAN, je dis c'est correct, selon le gouvernement, pas selon moi, là, mais... on travaille avec les membres, hein, c'est des comités. Hein, des comités là, qui se réunissent, par exemple, pour parler d'emploi. Là, on ressort un peu ce que les membres veulent. On rédige des documents, puis on va présenter ça, soit à des fonctionnaires ou des politiques, puis des commissions parlementaires. Puis on alerte le média sur des questions, par exemple, lorsqu'il y a eu ce monsieur là, qui a mis fin à ses jours là, parce qu'on le forçait à déménager. Mais c'est très difficile parce qu'on n'a pas, même dans les médias, à part chez vous, hein, et vous le faites bien, vous donnez la parole aux personnes, c'est très bien. Mais dans les médias ordinaires, c'est pas. C'est, être handicapé, ça saigne pas. Hein. C'est pas quelque chose qui attire tellement. Parce que dans la société.
C'est des mots forts que vous sortez.
Ça saigne pas. Ça saigne pas. Puis bon, je sais que c'est fort, mais bon.
Non, mais c'est bien. Non, justement, c'est parce qu'il faut mettre des mots, il faut mettre des actions surtout.
C'est pas assez éclatant pour le média. Les personnes qui ont l'imitation, vous savez, ceux qui font les journaux, ceux qui tiennent les micros, ceux qui décident ont leur façon de voir la société, y compris des personnes qui ont l'imitation fonctionnelle. Les mentalités pour les personnes concernant les personnes qui ont l'imitation fonctionnelle, il faut que ça change. Et c'est pas parce que tu deviens ministre que tu comprends plus, hein.
Non.
tu comprends bien des affaires, mais les préjugés, puis les, ça vient, c'est nous, ça.
Exact.
Alors, on les transporte. Alors, c'est pour ça que les médias ont de la misère à nous reconnaître tant que ça. Là.
Alors, on fait une pause, et puis ça sera le jeu questionnaire à la fin de l'émission.
D'accord.
La partie d'émission qui fait moins mal, comme j'aime bien le dire, parce que c'est plus reposant pour l'invité en général. Alors, je répète les règles du jeu, mesdames, messieurs. On demande à nos invités quelques questions, comme ça en rafale. Des personnes qui vous ont inspiré.
Drôle à dire, hein? Pierre-Éliott Trudeau.
Ah, pourquoi?
Ben, c'est lui qui a dit à un moment donné, en 1968-69, ce qui se passe dans la chambre à coucher à quelqu'un, ça ne nous regarde pas le gouvernement. Il a adopté un bill omnibus qui a ouvert la porte. Je parle pas pour ce qu'il a fait concernant la Constitution du Québec, là. On met ça de côté. Moi, je parle de ce gars de liberté. Mm-hmm. La Charte des droits, c'est des choses qu'il a données. Et il a mis le Canada sur la map. Il a su se distancer de ses grandes puissances. On parlera pas du reste, mais pour ça, c'est ça que je retiens.
Vos mentors.
Les mentors, oh mon Dieu. Vous me posez la question, là. J'ai eu quelques professeurs, hein? Jacques Larose qui m'enseignait, un prof aveugle, qui m'enseignait la musique, même si j'étais pas un bon étudiant en musique. Lui, ben, il m'a inspiré dans mon militantisme. J'ai eu d'autres professeurs. J'ai eu un gars qui s'appelle Jérôme Di Giovanni, une personne aveugle, qui a travaillé beaucoup avec nous sur le CAMO, qui était un gars de droit, hein, les droits. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup sur la question du droit à l'égalité.
Vos livres.
Oh, des auteurs. Suzanne Aubry, Michel Landlois. Mon Dieu. J'en ai d'autres, mais je ne les ai pas en tête.
Là. Alors, on retient ceux-là. On va les mettre sur notre site.
Ouais.
Vos artistes, en terminant, et vos villes préférées?
New York, Paris.
OK.
C'est des grosses villes. J'adore ça.
Et puis, vos artistes préférés?
Mais c'est sûr que Renaud, Richard Desjardins, je ne sais pas
choisir. Ils étaient là.
Ils étaient là.
Ils étaient avec nous aujourd'hui.
Ouais.
Merci beaucoup, Richard Lavigne, directeur général de la COFAN. Et on peut suivre tout ce que vous faites sur votre site Internet. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été à l'écoute, à la mise en onde, à la réalisation de l'émission. Kamal Salifou, recherchiste Christiane Campagna, direction musicale Yannick Roberge et aux médias sociaux Claudia Benoît. Bye bye, mesdames, messieurs.
Merci.
À la semaine prochaine.